nom de Jésus. Je vais vous dire la bénédiction que le Seigneur a donnée tout récemment à l'un de nos gendres. Notre fille aînée et notre gendre donc sont chrétiens. Ils sont dans l'église de Angers. Notre gendre avait un handicap. Il était malentendant. Il était atteint d'une maladie génétique. Son père était malentendant. Son frère et sa sœur sont malentendants. Et deux de ses tantes étaient sourdes. C'est une maladie qui atteint un petit organe à l'intérieur de l'oreille. Ce petit organe, en principe, fait la connexion avec les sons, les bruits et l'oreille interne. Et cette maladie attaque ce petit organe. En principe, la maladie arrive au moment de l'adolescence. Et notre gendre n'a rien eu au moment de son adolescence. Il était content parce qu'il s'est dit « Moi, je passe à travers les mailles du filet ». Seulement à l'âge de 30 ans, il a commencé à avoir des problèmes. Et quand la maladie arrive à cet âge-là, elle va beaucoup plus vite dans les dégâts qu'elle fait. Et mon gendre, notre gendre, a dû être appareillé parce qu'il avait de plus en plus de mal à entendre ce qu'on lui disait. Il a donc été appareillé et malgré ses appareils, quand, par exemple, on était tous en famille et qu'il y avait beaucoup de discussions autour de la table, il n'arrivait pas à comprendre ce que les uns ou les autres disaient. Si quelqu'un lui parlait dans son dos, il n'arrivait pas à comprendre non plus, malgré les appareils. Et au mois de mai dernier, il y a un évangéliste anglais qui est venu faire une mission d'évangélisation dans leur église. Et cette mission a été abondamment bénie. Il y a eu des miracles extraordinaires. Cette mission a duré 3 jours dans la semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, je crois bien. Et le vendredi soir, l'évangéliste dit « Ce soir, je vais prier tout particulièrement pour les malentendants et les sourds. » Donc, il y a eu plusieurs malades, dont notre gendre qui était là dans la file. Juste devant lui, il y a une femme sourde qui a été guérie instantanément. Ensuite, ça a été le tour de notre gendre. Et pour notre gendre, il n'y a pas eu de miracle. Alors, inutile de vous dire la déception qu'il a pu avoir. Parce que la mission se terminait le vendredi soir. Mais comme la mission avait eu beaucoup de succès, les pasteurs, organisateurs et l'évangéliste ont décidé de poursuivre la mission jusqu'au dimanche. Le dimanche matin, l'évangéliste prêche sur Jaïrus, la résurrection de la fille de Jaïrus, et il dit dans la prédication que Jésus a été arrêté en chemin et donc la femme qui était malade depuis 12 ans a été bénie avant qu'il y ait la bénédiction pour la fille Jaïrus. Et l'évangéliste a dit, ce n'est pas parce que nos gens ont été bénis avant vous que vous, vous n'allez pas être bénis. Et notre gendre a dit, ça c'est pour moi. À la fin du culte, l'évangéliste vient voir notre gendre et il prie encore pour lui. Mais rien ne se passe. Ils reviennent à la réunion le dimanche après-midi et l'évangéliste dit à notre gendre, écoute, je suis sûre que le Seigneur va te guérir cet après-midi. Seulement, il faut que tu fasses un acte de foi, que tu enlèves tes appareils. Donc, notre gendre enlève ses appareils. Au début de la prédication, il ne comprenait pas ce qui était dit. C'était pas distinct du tout pour lui, il ne comprenait pas. que la prédication s'est déroulée, il a commencé à comprendre, à bien entendre, et le Seigneur l'a guéri. Il nous disait que, avant, même avec ses appareils, il n'entendait même pas le bruit des clés dans sa poche. Il n'entendait même plus le clignotant de la voiture. Et quand le Seigneur l'a guéri, il a à nouveau entendu tout cela. Il travaille sur Paris, donc il prend le train tous les matins. Et le lundi matin, donc après que le Seigneur l'ait guéri, il entendait, il arrivait à entendre les gens qui étaient assis à plusieurs sièges devant lui, il comprenait toutes les discussions. Quand il est arrivé à son bureau, il a dit, mais c'est terrible, il y a un bruit là, bizarre. Il y a un bruit de moteur, il cherchait partout ce qui pouvait faire du bruit. C'était tout simplement le bruit de l'imprimante de l'ordinateur qu'il n'avait plus entendu depuis je ne sais combien de temps et qu'il entendait à nouveau. Donc le Seigneur l'a guéri d'une manière extraordinaire, parfaitement. Que le nom du Seigneur soit béni.
Nous n'oublierons pas, je pense, que le but principal de Dieu, le but principal de Dieu pour notre vie, c'est que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Et je voudrais lire ce soir, pour cette dernière réunion, dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Nous ne relirons pas les versets 29 et 30, vous les avez bien en mémoire maintenant. Mais je voudrais lire au verset 17. Or, si nous sommes enfants, comprenez enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Rappelez-vous, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais nous découvrons ici le chemin terrestre pour parvenir ici. Et Paul ajoute, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et nous arrivons ici à la lecture. Nous avions parlé d'une chaîne de 5 maillons d'or. Dieu nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Alors le plan du Seigneur, qui consiste à nous rendre semblables à l'image de son Fils, est un plan qui nous projette dans le futur, dans un état de perfection et pour l'éternité. Nous savons bien les uns et les autres que sur cette terre, nous ne serons jamais semblables à Jésus d'une manière parfaite. Mais le jour va venir où dans l'éternité, nous serons parfaitement semblables à Jésus. Nous le serons, j'allais dire, d'une manière visible, ne serait-ce déjà qu'au niveau de notre corps. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul écrit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts ?» Et puis l'apôtre va parler de votre corps et du mien, avec lequel on a tant de problèmes. Le corps est semé corruptible, c'est-à-dire qu'un jour il va aller à la corruption. On va retourner à la poussière de la terre, à moins que Jésus ne revienne avant. Moi, c'est mon souhait le plus vif, parce que la mort, ça m'intéresse pas plus que ça, finalement. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, et on en sait quelque chose avec toutes nos douleurs, qui s'accentue avec l'âge. Eh oui, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam, c'est Jésus, est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il va nous communiquer la vie, en lui nous allons ressusciter, et sur le plan du corps, nous allons être semblables à lui pour l'éternité. Paul dit, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et pour bien rester dans l'esprit de la mission, écoutez le dernier verset, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, les questions là de notre corps, nous porterons aussi l'image du céleste. » Le moment vient où lorsque le Seigneur Jésus va revenir chercher son Église sur les nuées du ciel, il va se passer un événement planétaire d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. Les morts en Christ vont ressusciter en un clin d'œil. Et nous, les vivants, dit Paul, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons, avec les morts ressuscités, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons ainsi toujours avec le Seigneur. Mais ce corps que tu as ce soir, et le corps que j'ai ce soir, n'ont rien à voir avec le corps que nous allons recevoir à ce moment-là, instantanément. Notre corps va être transformé par la puissance de Christ et nous serons semblables au corps glorieux de Jésus. Ce sera un corps céleste, affranchi des lois de la matière, un corps glorieux. Paul a écrit cela aussi dans l'Épître aux Philippiens. Notre cité à nous et dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Rappelez-vous, semblable à l'image de son Fils, en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. La bonne nouvelle, c'est ça aussi, c'est que nous en aurons fini avec un corps de misère, et même sur le plan du corps, nous allons être semblables à Jésus pour l'éternité. Fini les douleurs, fini les souffrances, fini les handicaps, fini les limites humaines, fini les fatigues. Nous allons être dans un corps glorieux, semblable à Jésus pour toujours. Ben moi, ça m'intéresse. Amen. Ça me réjouit de savoir comment on aura fini avec ce corps d'infirmité. Mais ce qui est plus glorieux encore, c'est que nous allons être semblables à Jésus sur le plan de notre nature spirituelle. L'apôtre Jean a écrit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il y a un devenir. Des gens se réjouissent de marcher avec le Seigneur. On se réjouit pour sa présence. On se réjouit pour les bénédictions reçues. On se réjouit pour la marche avec lui, pour l'exaucement des prières, pour les belles expériences qu'on peut faire. Mais le meilleur est devant. L'apôtre Jean dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, non pas seulement avec un corps changé et glorieux, mais même dans notre nature spirituelle, finie et chute, finie les défaillances, finie tout ce qui peut nous humilier encore dans notre marche avec le Seigneur. Mon frère, ma sœur, le jour vient où tu vas être parfaite, parfait. Il n'y aura aucun péché, aucune ombre, aucune souillure, aucune corruption, et pour jamais, pour toute l'éternité, parce que le voyant tel qu'il est, il va te transformer et tu seras semblable à son image pour toujours. Permettez-moi de vous citer la parole de Dieu, parce que c'est elle qui agit en nous qui croyons. L'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens quelque chose de merveilleux. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » On comprend tout ça. Alors il ajoute quelque chose sur le plan spirituel pour nous faire comprendre. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, et il parle du jour où nous serons avec le Seigneur pour l'éternité, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Est-ce que vous imaginez que ce Jésus dans lequel vous croyez, que vous aimez, avec lequel vous marchez et que vous servez, un jour vous allez le voir face à face. Face à face avec Jésus. Et le voyant face à face, nous allons être rendus semblables à lui pour toujours. L'apôtre Jean a eu la révélation de grands événements à venir et il les a laissés par écrit dans l'Apocalypse. Et pour ce qui est de l'éternité bénie avec Jésus, il dit « Il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction ». Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Pour les autres en bas, ils auront dû sur leur front ou sur leurs mains la marque de la bête. Mais pour les autres, ils auront sur le front le nom de l'agneau. Quelle beauté, barreau des veines, comme disent les marouches. Quel jour glorieux, oui, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dans le psaume 17, le psalmiste dit quelque chose de magnifique, mais je voudrais vous le citer comme il faut le traduire d'après l'hébreu, parce que c'est magnifique. Le psalmiste dit, « Moi, avec justice, je regarderai ta face. Je serai rassasié au réveil de ton image. » Alors vous pouvez le comprendre dans les choses de la terre, présentement dans notre communion avec le Seigneur, mais un grand réveil nous attend. Ce n'est pas le réveil de nos églises, c'est le moment où le Seigneur va revenir, il va réveiller tous les morts, et il va enlever son église à sa rencontre, je l'ai dit, et à ce réveil-là, nous allons pour l'éternité nous rassasier de son image. Nous sommes dans l'admiration et dans le bonheur à cette pensée. J'ai dit tout à l'heure que nous serons semblables à Jésus d'une manière parfaite quand nous serons là-haut. Dans le temps présent, sur le plan de notre nature spirituelle, l'image de Christ dans ta vie, dans ma vie, est en développement constant. Dans une marche normale avec le Seigneur, progressivement, Christ devrait se voir de mieux en mieux. Plus le temps passe, plus je devrais tranquillement ressembler à Jésus. Son image devrait se développer au fur et à mesure de ma marche chrétienne. Après 10 ans de conversion, je ne devrais pas avoir moins de joie, moins de paix, moins d'énergie, moins de zèle, etc. Mais au contraire, dans ma marche avec le Seigneur, je devrais permettre à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, je vais y venir dans quelques secondes, de perfectionner cette image du Seigneur en moi. Et là encore, j'aimerais revenir à un écrit de l'apôtre Paul dans sa première lettre, dans sa seconde lettre, aux Corinthiens, ne cherchez pas, là encore, je vais vous lire ces paroles magnifiques de l'apôtre qui sont là pour nous encourager. Il dit ceci: ce que nous demandons dans nos prières, ça c'est un sujet de prière pour pasteur. C'est un pasteur qui prie là. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Cela dit, je peux prier moi aussi pour ça. Si je réalise que le désir du Seigneur, c'est que je ressemble chaque jour davantage à Jésus et qu'il forme en moi l'image de Jésus, je vais faire de cette prière-là un sujet important dans ma vie. Est-ce que vous priez pour ça? Est-ce que tu pries pour ça? Seigneur, je veux prier et me tenir devant ta face pour mon perfectionnement. C'est un très grand sujet, parce qu'il entre dans le grand plan, le seul grand plan de Dieu pour notre vie. Mais comme parfois il nous faut nous-mêmes exaucer nos prières, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a parfois des choses que nous demandons à Dieu et Dieu nous les demande. Parfois nous disons: Seigneur, fortifie-moi, et lui il nous dit: fortifie-toi. Vous n'avez pas remarqué? Alors parfois il faut un petit peu aussi exaucer nos prières. Et là ce qui m'intéresse dans ce chapitre de la seconde épître aux Corinthiens, c'est qu'après avoir dit ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement, l'apôtre Paul ajoute un ou deux versets plus loin: perfectionnez-vous. Oui, nous, Paul et mes collaborateurs, je parle de l'arceau de Tarse, hein. Paul et mes collaborateurs, nous allons prier pour vous, Corinthiens. Nous prions pour votre perfectionnement. Mettez-y du vôtre. Parce que si vous ne voulez pas, si vous ne faites aucun effort, nos prières seront inefficaces. Il faut que vous collaboriez dans ce plan divin. Alors nous, on prie pour votre perfectionnement, mais prenez vos responsabilités, Corinthiens, perfectionnez. Il faut que, quand nous aurons prononcé le Amen final dans cette 7e réunion de la mission, chacun de nous repartions dans la vie chrétienne en disant: Seigneur, j'ai compris que le grand objectif de ma vie, c'est de devenir semblable à Jésus. C'est pas un à côté, c'est pas un luxe, c'est pas une option, c'est l'objectif principal de ma vie. Dans le livre des Proverbes, nous avons quelque chose qui illustre ça. Le sentier du juste c'est notre route, c'est ma route, c'est la tienne, le sentier du juste est comme la lumière dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça commence par l'aurore, espèce de lumière blanchâtre. Le soleil n'est pas tout à fait levé. On sort tout juste de la nuit. Puis vient l'eau. Le ciel devient un peu plus rosé, couleur orangée. Et puis le soleil se lève. Et au fur et à mesure de la matinée, c'est de plus en plus clair, c'est de plus en plus chaud, jusqu'au zénith. Parce que Dieu n'envisage jamais de déclin après. Il n'y a pas de coucher, il n'y a pas de coucher de soleil avec Dieu. Il va se lever jusqu'au zénith. Point final, le zénith, c'est quand Jésus revient. Alors ma vie, c'est ça. Je me suis converti, c'est l'aurore, j'ai pas tout compris. Hein. Mais enfin, il y a quelque chose qui s'est fait. Et puis après, le ciel est devenu un peu plus clair, un peu plus rosé, un peu plus orangé. Et puis au fur et à mesure, je viens aux réunions, je lis ma Bible, je prie, je cherche le Seigneur, je réfléchis aux choses de Dieu, je permets à Dieu d'agir dans ma vie. Et c'est comme le soleil qui progresse dans le ciel, ça devient de plus en plus clair, de plus en plus lumineux, de plus en plus agréable, de plus en plus chaud, jusqu'au zénith, jusqu'au moment où Jésus va revenir. Ma vie chrétienne, ça devrait être ça. Alors, il peut y avoir des accidents de parcours, je suis d'accord. Il peut y avoir des chutes, mais pas tout le temps. Globalement, notre vie devrait être une vie de progression. Une vie où on avance, où on devient plus fort, où on grandit dans la compréhension des choses de Dieu, dans la connaissance de la volonté de Dieu. Je cite à nouveau ce texte, « Le sentier du juste est comme la lumière dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » L'apôtre Paul a écrit une lettre aux Philippiens, vous le savez. Et dans cette lettre aux Philippiens, Paul dit ceci: « Je suis persuadé, et soyez-le aussi, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est le zénith. Au jour de Jésus-Christ, l'œuvre sera parfaite. Mais en attendant, le Seigneur travaille à notre développement. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je suis médiocre. Je vais rester médiocre 15 ans, 20 ans, et d'un seul coup, par le coup de baguette magique, je vais devenir parfait. C'est pas ça le plan de Dieu. C'est que le Seigneur m'a pris, il m'a fait naître de nouveau, et à partir de ce moment-là, il forme en moi l'image de son Fils. Progressivement, il a commencé en moi cette bonne œuvre, il la développe, il la développe, il la développe, et il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, dans sa seconde lettre, nous parle des plus grandes et des plus précieuses promesses, afin que par elle, dit Pierre, vous deveniez participants de la nature divine. Être participant de la nature divine, c'est progressivement ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus. Et il dit, participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Pendant longtemps, j'ai buté sur un problème. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, je me suis dit, là, c'est pas possible. Ou lui demeure en moi, ou moi je demeure en lui. Mais ça ne peut pas être les deux. Vous êtes d'accord? Ou je viens chez vous, ou vous venez chez moi, mais on ne peut pas vivre les deux choses en même temps. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux pas en même temps demeurer en Jésus et lui demeurer en moi. Ou je demeure en lui, ou lui demeure en moi, mais comment vivre les deux? Alors il a fallu que je revienne au contexte. Et le contexte, c'est le sarment et le sel. C'est dans ce contexte-là que Jésus dit ça. Et d'un seul coup, il y a une illumination. Je ne sais pas si elle est bonne. Hein. Vous me noterez à la fin de la mission. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense. Qu'est-ce qui fait que je peux être en Jésus en même temps que lui en moi? Si je regarde l'image que laisse le Seigneur, la comparaison, le cep et le sarment, la vie du cep est la même dans le sarment. Il est attaché au sarment. Il est uni au sarment. Et ce qui fait que le cep est dans le sarment et le sarment dans le cep, c'est la même vie qui anime les deux. C'est la même vie. Et à partir du moment où je suis uni à Christ, parce que Dieu m'a appelé à la communion de son Fils, la vie de Jésus va circuler en moi. Le Saint-Esprit va prendre de ce qui est à Jésus et il va le véhiculer en moi. Les pensées de Christ vont venir. Paul pouvait dire, nous avons la pensée de Christ. Les sentiments de Jésus vont être formés en moi, ce qui amène Paul à écrire, et il est en vous, les sentiments qui étaient en Jésus. Et parce que la vie de Jésus sera ma vie, et que ma vie sera la vie de Jésus, puisque la même vie va nous relier l'un à l'autre, alors oui, il demeurera en moi, en même temps que je demeurerai en lui. Enfin, moi, c'est ce que je comprends jusqu'à ce jour. Et ça me plaît bien, je pense que j'ai raison. Ils les ont entendus témoigner avec une assurance. Enfin, c'était des pêcheurs de poissons. Mais dans Jérusalem, ils avaient une hardiesse, une audace qui a bouleversé les chefs religieux. Et ils les ont reconnus pour être avec Jésus. Plus tard, c'est vrai qu'on dira ça d'une façon un petit peu sous forme de moquerie, mais ils l'ont quand même dit. Pour la première fois à Antioche, on a appelé les disciples, non pas des chrétiens, parce que c'est ce qu'ils sont devenus après, mais on les a appelés des chrétiens. Ils sont devenus chrétiens. C'était un terme de mépris, mais sans s'en rendre compte, c'était en même temps un compliment. Quand on les a vus vivre, on a dit, mais c'est des petits Christ, ces gens-là. Ce sont des petits Christ, des chrétiens. Ils étaient avec Jésus. On les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. L'image de Christ était dans eux. La véritable Église, c'est ça. Quand je suis dehors, quand je suis à l'extérieur, on devrait voir en moi l'image de Jésus. Vous savez, je ne sais pas chez vous. Je ne dis pas ça par... c'est pas une boutade. Je ne sais pas chez vous parce que je ne connais pas assez votre peuple. Moi, le peuple que je connais, c'est celui qui est devant moi dans les réunions, c'est tout. Mais chez les sédentaires, combien de fois des païens ont dit « Allez dans votre église pour être comme lui ?» Et ça voulait dire quoi? Mais sur le lieu du travail, il ment comme moi. Sur le lieu du travail, il vole le patron comme moi. Et des païens ont dit « Être dans votre église pour être comme lui, mais je préfère rester chez moi. » Il faut que notre vie tranche. Et lorsque nous sommes au milieu du monde, il faut que l'image de Jésus soit vue en nous. Il faut qu'on nous reconnaisse pour être avec Jésus. Il arrive dans une maison, vous s'assied, petite femme, nommée Marie, a payé le prix. Elle a dans un vase d'albâtre un parfum de nard pur de grand prix. Le trésorier de l'église, malhonnête, qui s'en mettait plein la poche, a vite fait le calcul. Et oulala, on aurait pu vendre ça tant de deniers. Mais elle, elle apporte ça. Elle rompt le vase, parce que dans l'adoration, dans la communion avec Jésus, il y a toujours quelque chose qui se brise. Il y a toujours un brisement pour venir vers Jésus. Sinon, ce qu'il y a de précieux, ça ne peut pas lui être offert. Alors elle casse le vase et elle verse ce parfum, une petite fortune, à l'époque, aux pieds de Jésus. Et puis, elle défait ses longs cheveux et elle essuie les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Et la maison se remplit de l'odeur du parfum. C'est l'Évangile qui le dit. Vous savez, parfois on fait ce qu'on a à faire sur le plan individuel et on ne se rend pas compte de l'impact. Ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait pour être vu. On ne l'a pas fait pour qu'on parle de nous. On l'a fait par amour pour Jésus. C'était entre Jésus et nous. Mais il y a des moments, sans nous en rendre compte, on fait du bien à tout le monde. Et la maison, l'église, se remplit de l'odeur de notre parfum. Un esprit de paix. Je ne cherche pas la bagarre avec le frère ou la sœur une telle. Un esprit de joie. Toujours prêt à rendre service, à avoir un sourire, à être fraternel, gentil. Et sans nous en rendre compte, la maison se remplit de l'odeur du parfum. Alors Jésus a dû sortir, il n'est pas resté dans cette maison-là. Et j'imagine quelque chose qui n'est pas écrit, mais je ne suis peut-être pas loin de la vérité. Dans la rue, les gens ont dû dire, ils s'en vont bien. Et ça a dû coûter. Il sent bon, hein. Et 5 minutes après, cette petite femme sort. Alors le même croise Marie. Elle sent bon, ces choses-là. Et c'est la même odeur. Seulement Marie, elle n'a pas versé le parfum sur ses cheveux. Elle a eu une communion avec celui qui avait le parfum. Et ça a suffi pour qu'elle en soit imprégnée. Je ne suis pas très loin de la vérité spirituelle. Nous portons, dit Paul, la bonne odeur de Christ. Tu ne peux pas être à ses pieds, connaître un brisement, apporter le parfum de ton amour, de ton adoration, et apporter l'infection dans l'église après, c'est pas possible. Tu apporteras la bonne odeur de Christ. Tu l'apporteras chez le commerçant, tu l'apporteras sur ton lieu de travail, tu l'apporteras dans tes contacts avec ta famille, dans les contacts avec les inconvertis, parce que cette odeur va t'imprégner. Tu comprends ce que ça veut dire? Qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'apôtre Paul a dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, non pas contemplerons, c'est maintenant, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. J'attends le moment où le Saint-Esprit va saisir le peuple de Dieu pour le ramener dans une véritable communion. Non pas une vie spirituelle au ras des pâquerettes, où on ne va pas se tenir devant lui simplement parce qu'il y a un malade à la maison, mais on va se tenir devant le Seigneur dans l'adoration. On va être là pour lui, pas pour nous. On ne va pas être là pour ce qu'il nous donne, mais on va être là pour adorer le donateur. On va contempler sa gloire. Je vais commencer à relire les pages de l'Évangile et je vais dire, Seigneur, par ton esprit, fais-moi connaître Jésus. Au travers de ces pages toutes simples, ses miracles, ses guérisons, son enseignement, ce qu'il a subi, tout ce qu'il a affronté avec succès, donne-moi à nouveau de redécouvrir Jésus. Aide-moi à le contempler, à l'admirer, à l'adorer. Et au fur et à mesure que je vais contempler Jésus, je vais être transformé de gloire en gloire. Est-ce que vous ne trouvez pas que nos églises manquent de gloire? Je vais le dire parce que moi, je n'ai plus rien à perdre. Et Dieu sait que moi, je me prêchais comme faisant entendre des sons de trompette, parce que notre peuple, je parle du peuple de Dieu, c'est dans terre où je parle, notre peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, a besoin aujourd'hui d'ensemble d'entendre des sons de trompette. Nous avons eu aujourd'hui, sur notre portable, un message d'une sœur que nous connaissons très bien et beaucoup, qui est sortie d'un culte scandalisé par les propos du pasteur dans la prédication. Et j'approuve cette sœur, les propos sont limites du blasphème vis-à-vis du Seigneur. La façon dont on traite les Écritures et dont on rapporte aujourd'hui dans un langage qui n'est pas loin d'être un langage ordurier, les récits de l'Écriture. Je prie le Seigneur que sa gloire revienne au milieu de nous. Nos églises ont besoin de retrouver la gloire de Dieu. Notre vie a besoin d'être imprégnée par la gloire de Dieu. Et plus nous allons contempler Jésus, plus nous allons être transformés de gloire en gloire. J'ai bientôt fini parce qu'il y a toute une autre partie de mon message, mais qui nous amènerait beaucoup plus loin. Puis je vais vous laisser avec quelque chose de positif, parce que la deuxième partie du message, c'est que Dieu se sert de la souffrance sur la terre pour former en nous l'image de Jésus. Donc on n'a pas le temps de voir tout ça, je ne peux pas blâmer ça nous emmènerait trop loin. Alors la seule chose, parce que peut-être vous attendez ça, frère, on est d'accord avec tout ça, mais comment est-ce que ce perfectionnement, cette image de Jésus peut être formé et développé en moi? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis d'accord, mais comment est-ce que ça va se faire? Par le contact avec la parole de Dieu. Moi, je ne vois pas d'autres moyens que ça. Et la faiblesse de nos églises aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne lisent plus leur Bible. J'ai souvent dit dans vos églises, et je le dis avec amour, c'est pas un jugement, Dieu connaît mon cœur, on vous aime trop pour ça. Mais je le dis avec force, ma sœur, tu ne sais pas lire, apprends à lire. Je t'en supplie. Tu ne peux pas te priver de cette lettre d'amour. C'est pas compliqué, apprends à lire. Tu vas découvrir alors des richesses dans la Bible, quelque chose de magnifique. Tu sais lire? Alors profites-en pour dévorer chaque jour un texte de la parole de Dieu. Nourris-toi de cette manne, le pain est grand, le pain est fort, parce qu'en mangeant cette parole-là, l'image de Christ va se former en toi. Une petite fille disait à sa grand-mère, vieille grand-mère chrétienne, sédentaire, « Grand-mère, mais à quoi ça te sert de lire la Bible? Ta tête, c'est comme une passoire, t'as plus de mémoire, une fois que t'as lu, tu te rappelles plus de rien, t'es une vraie passoire, ça te sert à quoi de lire la Bible? » Et la grand-mère chrétienne, pleine de sagesse, a dit à sa petite fille, « Oui, mais la passoire, elle est bien propre. » La soirée, elle est bien propre. Vous savez, je suis pasteur depuis 1966. 1er septembre, j'avais 18 ans. Ne pensez pas que nous, les pasteurs, on est une caste privilégiée, on ne connaît jamais de problème. Tout pasteur que je suis, même encore aujourd'hui, lire la Bible, c'est parfois un combat. Je prends ma Bible. Aujourd'hui encore, j'ai pas honte de vous dire ça, c'est comme ça, on est des hommes, je lis, puis arrivé au bout de la colonne, mais ça ne vous est jamais arrivé, moi ça, il y a quoi ça. Je suis arrivé au bout de la colonne, qu'est-ce que j'ai lu? Parce que pendant qu'on lit, l'esprit va ailleurs, dans les soucis, on vagabonde à droite, et ce qui est fort, c'est qu'on arrive à lire, on lit, et arrivé au bout, c'est pas ce qu'on a lu, c'est un combat. C'est un combat parce que le diable sait trop bien ce que la parole de Dieu c'est en nous.
C'est vrai.
Alors il faut combattre. Mais moi je vous dis que l'image de Christ formée en nous, ça passe par le contact avec la parole de Dieu. Ça passe par la prière. Et là c'est pareil. Moi ça m'arrive de ne pas avoir du tout envie de prier. Je sais pas vous. Il y a des moments où on n'a pas envie du tout. Et alors le diable, il a une théologie au point. Ah, c'est un prédicateur hors pair. Il est capable d'avoir des allures spirituelles parfois, c'est étonnant. Il vient nous dire, écoute, c'est ça qu'il a dit. Écoute, faut que tu sois sincère. Si tu te mets à prier sans en avoir envie, devant Dieu, ça va valoir quoi ça? Dieu sait que tu n'as pas envie. Alors attends d'avoir envie. Et si vous faites ça, vous n'aurez jamais envie. Alors moi j'ai une technique maintenant, ça vaut ce que ça vaut, mais je résiste au diable. J'ai pas envie de prier, je vais prier. Et alors c'est étonnant parce qu'au début c'est très dur. On a l'impression qu'on tape dans un mur, que ça nous revient en pleine figure. C'est dur. Et si on persévère, on se rend compte qu'au bout de quelques minutes, ou de quelques quarts d'heure quand même, parce que je pense qu'on prie plus que quelques minutes, eh bien, on se rend compte qu'au fur et à mesure, ça devient plus facile. Parce que la résistance cède. Nous avons besoin de nous tenir dans la prière pour être transformés à l'image de Jésus. Alors, je vais terminer. Pas le temps de vous parler des souffrances. Le texte de Malachie, on est à un chapitre du Nouveau Testament, enfin entre la page blanche de la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau, il y a quand même 4 siècles. Pendant 4 siècles, Dieu se tait. Alors, annonçant des choses à venir, le Saint-Esprit dit que soudain va entrer dans son temple le Seigneur. Et je peux vous dire que quand le Seigneur va entrer dans son temple, il va remettre de l'ordre comme il en a mis quand il était sur la terre. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il va prendre son temps. Puis c'est aussi la position du maître. Qui travaille tranquillement et qui enseigne. Le Seigneur prendra son temps. Ça ne va pas se faire en bâclant les choses. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, c'est-à-dire la classe sacerdotale. Et ça, dans la Nouvelle Alliance, c'est nous. Il a fait de nous un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs. Ce que je crois, et je vous le prophétise, c'est que si le Seigneur tarde encore un tout petit peu, il va former un peuple, qu'il va sortir de tout ce qui est institutionnalisé et qui est en train de déraper. Il va sortir un peuple de l'apostasie. Il va sortir un peuple des structures humaines qui sont en train de déraper. Et ce peuple-là, le vrai sacerdoce, le Seigneur va prendre le temps de le purifier. De le nettoyer de son embonpoint et de le remplir de son esprit afin de le préparer pour l'enlèvement et de travailler par ce noyau-là pour que d'autres connaissent sa grâce. Dernièrement, le Seigneur m'a arrêté par son esprit par un texte de l'Épître aux Hébreux. Le Saint-Esprit m'a arrêté sur ce texte. Il a souffert hors de la porte. Et je me suis dit, mais il a souffert hors de la porte, mais dans l'intérieur de la porte, c'était pas les Romains qui l'ont rejeté. Ce n'était pas les Grecs. Qu'est-ce qui a amené Jésus à la croix hors de la porte? Son peuple. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Et c'est ce peuple-là, son peuple, qui l'a amené dehors. À l'intérieur, il y avait les institutions, il y avait les chefs religieux, les pharisiens, tout était ficelé, le peuple était enseigné au millimètre près, c'était là la religion devenue officielle, avec des hommes qui avaient une soif de pouvoir extraordinaire. Ils tenaient tout dans les mains. Lui, il arrive là, comme un révolutionnaire, fustigeant les pharisiens, les scribes, sans être trop. On l'a fait dégagé de Jérusalem et il a souffert hors de la porte, on l'a crucifié. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute: sortons donc, sortons donc pour aller à lui en portant son opprobre. Tu ne pourras jamais porter l'opprobre à la piscine de Bethesda, ça c'est à l'intérieur des portes. Tu ne pourras jamais porter son opprobre au réservoir de Siloé. Si tu veux porter son opprobre, il va falloir que tu sors. C'est le prix à payer. Sortons donc pour aller à lui en portant son opprobre. Et Dieu a toujours fait comme ça. Dans les temps de réveil, quand des mouvements secondes se sont éteints, Dieu a rallumé un feu en marge de tout ça, en dehors de tout ça, et il a établi sa gloire. Je reviens pour finir à ce verset de Malachie, il s'assiera et il purifiera l'argent. Ce verset intriguait beaucoup quelques femmes d'un groupe d'études bibliques. Elles se demandaient ce que pouvait en être la signification au regard du caractère et de la nature de Dieu. Et l'une d'entre elles offrit au groupe d'étudier le procédé de raffinement de l'argent et de leur faire un rapport lors de la prochaine étude biblique. Durant la semaine, elle appela un orfèvre. Vous savez, c'est quelqu'un qui travaille les métaux précieux pour faire des bijoux. Elle appela un orfèvre et prit rendez-vous pour aller le voir travailler à son atelier. Elle ne fit aucune mention de la raison de son intérêt, à part le fait d'une simple curiosité sur le procédé de raffinement de l'argent. L'argent, c'est pas la monnaie, hein, c'est le métal précieux. Alors qu'elle observait l'orfèvre, il prit une pièce d'argent, morceau, métal précieux, qu'il mit au-dessus du feu et commença à chauffer. Il expliqua alors que pour raffiner l'argent, il est nécessaire que le morceau de métal précieux soit tenu par quelqu'un au milieu du feu, là où les flammes sont le plus brûlantes, pour en consumer toutes les impuretés. Elle demanda à l'orfèvre s'il était vrai qu'il devait rester là, près du feu, tout le temps où l'argent était raffiné. L'homme répondit par l'affirmative. Et non seulement devait-il rester assis là, tenant le morceau d'argent, mais il devait garder les yeux fixés sur la pièce d'argent tout le temps qu'elle était dans le feu. Si le morceau d'argent était laissé un instant de trop dans les flammes, il serait détruit. La femme resta silencieuse pendant un moment, puis elle lui posa enfin la question « Comment savez-vous quand l'argent est complètement raffiné ?» Il lui sourit et il répondit « Oh, c'est facile. Lorsque je vois mon image se refléter dans l'argent. » Alors demain, après-demain, ça va chauffer pour toi. Parce qu'il va prendre le métal précieux, ou alors, c'est pour savoir ce qu'on veut. Si tu veux une vie médiocre, Dieu te laisse comme ça, pas forcément. Si nous voulons une église médiocre, un ministère médiocre, une prédication médiocre, des résultats médiocres, d'accord, Dieu le laisse. Si tu veux son plan, semblable à l'image de son fils, va prendre ta vie, va mettre dans le feu. Va s'asseoir, hein, il attend. Pour toutes les impuretés sont là. Te laisser trop longtemps dans l'épreuve, ça te détruirait. Alors il va t'y laisser le temps qu'il faut. Peut-être à un moment, parce que ça je l'ai dû faire, à un moment donné, il retire du feu. Mais c'est pas fini, alors on y retourne. Il faudra y retourner aussi longtemps et aussi souvent qu'il faudra. Et à un moment donné, quand il verra son image commencer à se former dans ta vie, il aura réussi. C'est ce qui va se produire quand il va paraître. À un moment donné, la prophétie de Malachi va s'accomplir à son point culminant. Et je crois que les églises qui déjà veulent voir quelque chose de ce plan divin peuvent le connaître. C'est au prix de la souffrance. Je n'ai pas le temps de voir ça avec vous, il faudrait une autre réunion. Mais en tout cas, nous entrevoyons bien là le plan du Seigneur. Il faut savoir ce que nous voulons. Le Seigneur est celui qui soutient, il est celui qui le fortifie. Il ne commet pas d'erreur. Même dans ce chemin-là, ça restera un chemin béni parce que le Seigneur sait doser son chemin. Il sait ce que nous pouvons supporter. En attendant, il veut purifier les fils de Lévi. Et la question qui se pose en cette fin de mission, c'est pas de savoir si on a eu des belles prédications, si la mission était bonne comme on l'entend. On a entendu le mot de Dieu. Je vous passe toutes les phrases typiques qu'on entend. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que maintenant, parce que je suis à la croisée des chemins, quel va être l'avenir de mon église, de mon ministère, de mon foyer, de ma vie? Je sais, je suis maintenant responsable, je n'ai plus d'excuses. Je sais que Dieu veut former en moi l'image de son Fils. Alors ce soir, je dis oui ou non. C'est aussi simple que ça. Tu vas dire oui ou non. C'est pas, vous comprenez que ce n'est pas une simple mission. C'est une mission fortement dérangeante. Parce qu'on ne va pas sortir indemne de ça. C'est pas possible. On ne va pas sortir indemne de cette mission. Parce que de toute façon, il va falloir donner une réponse au Seigneur. Et ne pas lui en donner une, c'est lui en donner une quand même. Ce sera oui ou non. Et de la réponse que nous allons donner, notre avenir est engagé. Personnellement, familialement, je crois que ça existe, sur le plan de la famille, sur le plan de l'Église. Je souhaite que tous nous disions oui au Seigneur. Parce qu'au bout du chemin, il y a une riche bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.